السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد. Mardi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons commencé un cours intitulé « Les règles du jeûne du mois de Ramadan ». Et ceci est donc la deuxième partie de ce cours entamé le jour du mardi. Nous avons vu ce qu'était la définition du siyam, du jeûne. C'est la retenue dans la langue arabe. Et en islam, c'est une adoration vouée à Allah qui consiste à s'abstenir de commettre ce qui annule le jeûne, et ce, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. On a vu le jugement du jeûne, c'est une obligation, et sa grande place en islam, c'est un pilier de l'islam, et qu'il a été ordonné en l'an 2 de l'Hégire. On a vu certaines de ses sagesses et les règles relatives à la vision de la lune. Pareillement pour celui qui entame un jeûne dans un pays, puis voyage. Enfin, nous avons vu shurut wujubi as-siyam, les conditions qui rendent obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, à savoir être musulman, avoir la raison, être pubère, avoir la capacité, être résident, et l'absence d'empêchement. Nous allons reprendre sur ce point-là avant de continuer, en commençant par la femme qui est indisposée. La femme qui est indisposée ne jeûne pas. Cependant, elle devra rattraper ses jours de jeûne. Elle a une année après le mois de Ramadan, après le jour du Eid, pour rattraper ses jours manqués. Si elle veut, elle les rattrape rapidement, et cela est une bonne chose. Et si elle veut, ou si elle est occupée, na'am, elle peut les rattraper jusqu'au mois de Sha'ban, y compris. Elle peut rattraper ses jours jusqu'au mois de Sha'ban, y compris. Qu'en est-il de la femme qui est enceinte et qui peine à jeûner? La femme qui est enceinte, il lui est demandé de jeûner comme les autres. Cependant, si elle n'en a pas la capacité, ou si son médecin lui dit de ne pas jeûner, car ça représente une nuisance pour elle ou pour ce qu'elle porte, à ce moment-là, elle rompt le jeûne. Puis les savants ont divergé. Est-ce qu'elle devra le rattraper ou non? Un des avis forts, tiré de la parole de Abdullah ibn Abbas, également la parole d'Abdullah ibn Omar, c'est qu'elle rompt le jeûne, na'am, et à la place, elle nourrit un pauvre. Pareillement pour la femme qui allaite, elle jeûne, et si elle ne peut pas jeûner, pour une nuisance sur sa personne ou le nourrisson allaité, à ce moment-là, elle rompt le jeûne et elle nourrit un pauvre. Dans le cas où elle ne le rattrape pas, celle qui souhaite rattraper, elle rattrape. Celle qui souhaite nourrir un pauvre, elle nourrit un pauvre. Ça, c'est le cas de la femme qui allaite et celui de la femme enceinte. Concernant le fait d'être résident, concernant le fait d'être résident, le voyageur a la permission de rompre le jeûne. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui qui est malade ou un voyageur, qu'il rattrape un nombre de jours égal, c'est-à-dire s'il rompt le jeûne. Reste à savoir quelle est la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est le plus facile pour toi. Si le voyage est difficile et que te cause une lourdeur particulière, le mieux, c'est de rompre le jeûne et de rattraper plus tard. Mais si c'est clairement supportable et qu'il n'y a pas de grande différence, à ce moment-là, tu as toujours le choix. Mais quelle est la meilleure chose à faire? Si tu me dis ça, si tu dis ça t'est égal, alors la meilleure chose à faire, c'est de jeûner pour ne pas avoir à rattraper plus tard. Car tu auras jeûné dans le mois de Ramadan, ce mois béni, tu auras jeûné avec la communauté, en groupe, et tu te seras acquitté de ton obligation, car tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc pour ces raisons, et d'autres, comme le fait de répondre rapidement à l'appel d'Allah Azza wa Jal, c'est mieux de jeûner. C'est mieux de jeûner. Sauf si tu as une responsabilité, tu es une personne de science, et que les gens pensent que c'est obligatoire de jeûner en voyage. Alors il peut être bon de montrer l'exemple et de rompre le jeûne en voyage pour enseigner aux gens la facilité de cette religion et qu'il est permis de rompre le jeûne et que de jeûner en voyage n'est pas une obligation. N'est pas une obligation. Pour revenir sur les menstrues, quelques questions fréquemment posées. Quelques questions fréquemment posées. La femme qui est indisposée, puis se voit pure dans la journée de Ramadan. Après le Fajr, elle était toujours indisposée. Mais dans la journée, elle est pure. Elle se lave, elle reprend la prière. Mais qu'en est-il du jeûne? Doit-elle s'abstenir le reste de sa journée de manger et de boire et de ce qui annule le jeûne? La réponse est non. À partir du moment où elle a dépassé le Fajr de manière indisposée, ce jour-là ne lui est pas comptabilisé. Elle le note et elle devra le rattraper. Elle le note et elle devra le rattraper. Un deuxième cas, donc c'est valable aussi pour le voyageur, celui qui est en voyage jusqu'après l'heure du Fajr et qui rompait le jeûne. Une fois arrivé, il continue le reste de sa journée sans jeûner et il devra rattraper ce jour. Cependant, il ne s'affiche pas en public en mangeant. Il préserve son honneur. Un deuxième cas est la femme qui est indisposée. Mais avant le Fajr, elle voit sa pureté. Et la pureté de la femme indisposée s'observe par l'un de deux signes. Le premier, c'est le jafaf ou tam. C'est la sécheresse totale. Elle introduit un coton et en le ressortant, c'est tout à fait blanc. Il n'y a aucun écoulement de sang, que ce soit rouge, que ce soit foncé, marron ou jaune. Il n'y a rien de cela. Alors, elle est purifiée. Ou elle voit, elle casse tout le bédra, une matière qui sort à la fin des menstrues observée chez certaines femmes seulement. Si elle voit l'un de ces deux signes-là, ne serait-ce que 10 secondes avant le Fajr, ou moins que cela, alors elle met l'intention de jeûner. Elle entame, une journée de jeûne. Elle entame un jour de jeûne. Et si elle dit, mais je n'ai pas eu le temps de faire le ghusl, on lui dit, ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'interruption des menstrues ait eu lieu avant le Fajr. À partir de ce moment-là, il est obligatoire de jeûner en mettant une intention. L'intention du jeûne. Donc voilà pour le cas de la femme qui a eu ses menstrues, puis elles se sont interrompues avant le fajr d'un jour du mois de Ramadan. Ce jour-là, elle le jeûne. Il est valable, même si elle n'a pas eu le temps de se laver. Le dernier cas, c'est le cas de la personne qui jeûnait, le cas de la femme qui jeûnait, mais juste avant le coucher du soleil, juste avant le maghrib, elle a l'écoulement de ses menstrues. Avant l'adhan, avant le coucher du soleil, de 1 minute, elle a ses menstrues. Quel est le jugement de son jeûne? Son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé et elle n'a pas à poursuivre son jeûne, ce qui lui reste comme temps, et elle devra rattraper ce jour. Et on parle ici d'écoulement de menstrues, non pas de ressenti des signes ou de déplacement interne. Si elle ressent les signes des menstrues sans écoulement, et qu'une fois l'adhan, qu'une fois le coucher du soleil arrivé, il y a l'écoulement, ou en même temps que l'adhan, alors ce jour-là est comptabilisé, valable, et elle n'a pas à le rattraper. Donc voici les 3 ou 4 situations quant à l'apparition des menstrues et l'interruption. Naam, est-ce qu'elle doit jeûner ou non? Voici les réponses. On passe au point suivant. Shurut sihhati siyam, les conditions d'authenticité du jeûne. Dans le point précédent, on voyait les conditions d'obligation. Il y avait notamment la puberté. Mais qu'en est-il des conditions d'authenticité? C'est-à-dire celui qui va jeûner et dont le jeûne sera valable et il y aura des récompenses, bien que ça ne soit pas forcément obligatoire pour lui. Les premières conditions, l'islam al-aql, l'islam, la raison. Ensuite, at-tamyiz, atteindre l'âge du discernement, le discernement. Inqita'u dami al-hayd wa an-nifas, l'interruption du sang des menstrues ou des loches. Tabiyyatu an-niyyati min al-layl, mettre l'intention avant le fajr. Si ces conditions sont réunies, la personne peut jeûner et son jeûne est valable. On a déjà parlé de l'islam, de la raison. Parlons du at-tamyiz. At-tamyiz, c'est le discernement. Nous passons par 3 étapes. Si Allah nous accorde de vivre. Premièrement, as-sabi. C'est un bébé. C'est un petit. Ensuite, al-mumayyiz. Ensuite, il atteint l'âge du discernement. Ensuite, elle baligh. Ensuite, il devient pubère. Celui qui a moins de 7 ans, qui n'est pas capable de comprendre ce qu'on lui dit et de répondre et de distinguer entre l'utile et le nocif, il n'est pas mumayyiz. Il n'a pas atteint le discernement. Son jeûne n'est pas valable. Il ne lui est pas recommandé et il n'est pas valable. Parce qu'il n'a pas la capacité de mettre l'intention et le jeûne, c'est s'abstenir de choses avec une intention. Donc lui ne peut faire les adorations. Exception faite du pèlerinage, car il y a un hadith. Une femme a pris un bébé, elle l'a soulevé, « Ya Rasulallah, li hada hajj ?» Est-ce que celui-ci est un pèlerinage? Il a dit oui. Et toi aussi tu as la récompense. Donc on a une exception avec ce hadith. Et le mumayyiz, le tamyiz s'observe par l'un de 2 signes. Le premier, ce qui est venu dans le hadith, Mouru abnakum bis salawahum abna ou sab'i sinin, ordonnez à vos enfants la prière alors qu'ils ont 7 ans. Donc on encourage, ou on dit simplement à l'enfant de prier à 7 ans. 7 ans est donc l'âge du discernement qu'on trouve dans les textes. Puis il y a des signes indépendamment de l'âge qui sont relatifs à l'enfant. C'est-à-dire certains on le tamise avant et d'autres après. C'est la capacité à comprendre
ce qu'on lui adresse comme parole, à répondre à cela et également à distinguer entre le bien et le mal, le bénéfique et le nocif. À partir du moment donc où il a le discernement, son jeûne est valable. Et la sagesse de faire jeûner l'enfant, c'est de l'habituer, de le renforcer, de lui donner la capacité, une fois que le jeûne sera pour lui obligatoire, de l'accomplir avec sérieux et plaisir de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Quelques questions relatives à la raison. Le fait de jeûner, c'est s'abstenir de certaines choses avec l'intention, n'est-ce pas? Celui qui perd la raison n'a pas cette intention. Donc, de base, on ne lui dit pas de jeûner. Mais doit-il rattraper son jeûne ou non? Si c'est une personne qui n'a pas la raison de base, on ne lui demande pas de rattraper le jeûne ni de jeûner. Mais si c'est une personne qui a la raison de base, puis qui perd la raison parce qu'il s'est évanoui, ou il a fait une crise, et ainsi de suite, à ce moment-là, s'il se réveille après le maghrib, on lui demandera de rattraper son jeûne parce que la base, c'est qu'il a, lui, la raison. La base, lui, a la raison. Donc, il ressemble à celui qui est fou ou à celui qui dort. Plus il ressemble à celui qui est fou, moins il aura rattrapé. Plus il ressemble à celui qui dort, plus il aura à rattraper. Donc, il n'est pas responsable à partir du moment où il a perdu la raison, comme la personne qui est folle, si on dit ainsi. Naam. Cette personne-là, on ne lui demande pas de rattraper. Naam. S'il perd la raison par des actes commis de lui-même, comme le fait de consommer de l'alcool ou se droguer ou autre, alors il a commis un péché gravissime, il doit se repentir. Son jeûne n'est pas valable et en plus de cela, il doit le rattraper. En plus de cela, il doit le rattraper. Naam. Ensuite, l'intention avant le fajr. Le jeûne du mois de Ramadan est une adoration. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Innamal a'malu bin niyyat ». Les actes ne valent que par et les intentions. Donc, celui qui ne met pas l'intention avant le premier jour de jeûne n'aura pas de jeûne. Il faut absolument mettre une intention avant d'arriver au fajr. Et l'intention, c'est une chose très simple. C'est la simple volonté du cœur de faire cette adoration. Il n'y a pas de parole à prononcer. Lorsque tu t'es levé pour manger le repas du sahur, c'est que tu as mis l'intention. Le simple fait de se réveiller, de se lever en avance pour prendre le repas du sahur, c'est que l'intention est là. Le simple fait de se dire « Demain, je jeûnerai, c'est le premier jour de Ramadan, alhamdulillah, du Naam », c'est déjà une intention. Donc, il ne faut pas tomber dans les doutes et les insufflations sataniques concernant l'intention. Naam. L'épouse du prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « Man lam yubayiti siyam min al-layl ou qabla al-fajr, fala siyam ala. » Celui qui met pas l'intention, qui ne met pas l'intention de jeûner avant le fajr, n'a pas de jeûne. N'a pas de jeûne. Reste à savoir, est-ce qu'il nous faut mettre une intention chaque nuit avant le Fajr ou une seule intention au début de Ramadan suffit? L'avis prépondérant chez les savants est qu'une seule intention avant d'entamer le premier jour de jeûne suffit. à condition de ne pas être touché par une interruption de jeûne, comme les menstrues, comme la maladie, comme le fait de rompre en voyage et autres causes. Parce que dans ce cas-là, la personne a coupé son intention. Elle ne jeûne plus. Si elle veut reprendre le jeûne, elle doit remettre une nouvelle intention. Elle doit remettre une nouvelle intention. Dans le cas contraire, une seule intention suffit. Cependant, il est recommandé de renouveler son intention chaque nuit. Cependant, il est recommandé de renouveler son intention chaque nuit. Barakallahu fikoum. Alors que pour un jeûne recommandé, non obligatoire, la personne peut commencer son jeûne et mettre l'intention après le Fajr. Parce que Aïcha, radiallahu anha, nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est entré chez elle un jour. Et il lui a dit, « Hal indakum shay ?» Avez-vous quelque chose à manger ?« Faqulna la » Nous dîmes non. « Qala fa inni idhan sa'im » Je suis alors jeûneur. Je vais alors jeûner. Il a donc commencé son jeûne à ce moment-là. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dit, il y a ici une preuve pour l'avis de la majorité des savants. C'est que le jeûne recommandé, on peut le commencer, on peut mettre l'intention dans la journée. Naam. Le point suivant, wajibat al-siyam. Quelles sont les obligations dans la journée du mois de Ramadan? Quelles sont les obligations en état de jeûne? L'obligation du jeûneur, c'est plusieurs points. Premièrement, l'imsak wa anil mufattirat. Premièrement, s'abstenir de faire tout ce qui annule le jeûne. Et ce, dans un temps déterminé. De l'apparition de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Car Allah nous dit dans Sourate Al-Baqarah, Allah nous dit, وَكُلْ وَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et mangez, et buvez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir du fil blanc. Ou plutôt le fil blanc du fil noir, marquant le fajr, l'aube. Puis compléter le jeûne jusqu'à la nuit. Donc on voit que l'abstinence de ce qui annule le jeûne a lieu du fajr au maghrib. Et le prophète alayhi salatu wa salam disait, La yamna'kum min sahurikum adhana Bilal, que le adhan de Bilal ne vous empêche pas de manger votre repas d'avant le Fajr. Pourquoi cela? Yani jusqu'à ce que fasse le adhan Ibn Ummi Maktoum. Dans l'autre hadith, fa inna Bilal kana yu'adhinu bil-layl. Bilal faisait le adhan de la nuit pour avertir les gens. Naam. Mangez et buvez hatta yu'adhina Ibn Ummi Maktoum. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le adhan. Ibn Ummi Maktoum était aveugle. Il ne faisait l'adhan que lorsqu'on lui disait asbaht, asbaht, ou qad tala al-fajr. Il faisait l'adhan que lorsqu'on lui disait l'aube est entrée. Naam. Donc soit tu connais les signes à l'œil nu, soit tu entends l'adhan du mu'adhin qui fait l'adhan à l'heure, soit tu as un calendrier, ou on t'informe du calendrier. Manière de savoir l'heure sont de quatre manières. C'est ces quatre manières-ci. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, d'aqbala al-laylu minha huna, wa atbara al-naharu minha huna, minha huna, wa gharabati al-shams, aftara al-sa'im. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si la nuit arrive de là-bas, c'est-à-dire de l'Orient, et que le jour part de là-bas, c'est-à-dire de l'Occident, que le soleil se couche, le jeûneur a rompu son jeûne. Ces trois signes-là se suivent inéluctablement. Lorsque la nuit arrive d'ici, le jour part de là-bas, et le soleil se couche. Tout ça va ensemble, et c'est pour appuyer qu'a dit cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et enlever tout soupçon quant au fait que s'il reste des lueurs dans le ciel ou il reste du jour à l'œil nu, même si le soleil est couché, on devrait attendre. Non, il a cité ces signes-là pour montrer que dès lors que le soleil s'est couché, peu importe, on peut rompre le jeûne. Naam. Je répète, ce ne sont pas les signes dans le ciel qui comptent, mais le coucher du disque solaire. Barakallahu fikoum. Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abdullah, si je ne me trompe pas, Ibn Abi Awfa, de leur apporter de quoi couper le jeûne. Il lui a répondu, « Law amsayt » Il lui a dit, « Si tu attendais un peu qu'il fasse plus nuit, na'am, qu'on arrive plus au soir. » Le prophète salam lui a répété sa demande. Na'am. Puis, il lui a dit, « Dès lors que tu vois la nuit arriver de ce côté, et le jour partir de celui-là, le jeûneur a rompu son jeûne. » Le jeûneur a rompu son jeûne. Et la plupart de ces hadiths sont dans le Bukhari et Muslim. Na'am. Une deuxième obligation pour toi, au jeûneur, c'est istishab an-niyya hatta ghurub ash-shams. C'est que ton intention doit t'accompagner, c'est que tu ne dois pas mettre l'intention de couper ton jeûne avant que le soleil ne se couche. Istishab an-niyya, l'accompagnement de l'intention, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas mettre l'intention de couper ton jeûne tant que le soleil ne s'est pas couché. Une autre obligation, c'est que celui qui oublie, ou est distrait, ou est ignorant, et qui a mis quelque chose dans sa bouche pour le manger, puis on l'avertit, il a l'obligation de le retirer, de ne pas l'avaler ou de ne pas continuer à le consommer. Contrairement, na'am. Un autre point, qu'en est-il de celui qui se voit dans les conditions d'obligation durant la journée? Par exemple, il était kafir, il s'est converti à l'islam. Il était kafir et il s'est converti à l'islam. Que doit-il faire? Il était enfant, c'est devenu un homme ou une femme. Il est devenu pubère. Que doit-il faire? Vous voyez ces cas-là? Si il se convertit, il est devenu musulman, il se retrouve dans l'obligation de prier et de jeûner. Alors il commence son jeûne à ce moment-là et il le coupe au coucher du soleil. Qu'il reste 5 minutes ou qu'il reste 10 heures, peu importe. Et si c'est avant le Fajr, eh ben il entame une journée de jeûne complète. Et il n'a pas rattrapé les jours passés, ni les heures passées de cette journée de jeûne s'il s'est converti durant la journée. Et c'est la même chose pour celui qui atteint la puberté. C'est la même chose pour celui qui atteint la puberté. Parmi les obligations du jeûneur, ce dont ceux qui ne maîtrisent pas leurs désirs, parmi les époux, ne doivent pas, par exemple, avoir une proximité qui va développer le désir au point de ne pas pouvoir se retenir de faire ce qui n'est pas permis durant la journée du jeûne du mois de Ramadan. Naam. C'est pour cela que certains savants disent que le jeûne en âge, qui a le désir, le jeune marié par exemple, il s'éloigne quelque peu de son épouse de peur de tomber dans l'interdit. de peur de tomber dans l'interdit. Parmi les interdictions durant toute l'année, mais plus spécifiques dans le mois de Ramadan, c'est le fait de délaisser les mauvaises paroles et les mauvaises actions. Et de ne pas se maîtriser. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yada' qawl az-zur wa al-amala bih aw al-jahl falaysa lillahi hajatun yad'a ta'amahu wa sharabahu » Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, le mensonge et les mauvaises œuvres et le fait de ne pas se contrôler, Allah n'a aucunement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire le but, c'est la piété. Le but, c'est le délaissement du mal lorsque tu jeûnes. Si tu ne fais pas cela, alors tu ne jeûnes pas comme Allah Azza wa Jal le veut de toi. On a aussi l'obligation d'aimer le jeûne. Parce que c'est une obligation qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré, c'est une adoration. Et lorsqu'Allah t'ordonne une chose, après l'avoir étudié, tu as l'obligation de l'aimer. Tu as l'obligation de l'aimer. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Allah vous a fait aimer la foi. Wa zayyanahu fi qulubikum. Et l'a embelli dans vos cœurs. Et il est très dangereux d'avoir de l'aversion envers une adoration. On peut être faible. On peut demander à Allah Azza wa Jalla l'aide. Mais on ne doit jamais détester une chose qu'Allah a légiférée. Ça entache la foi. Ça peut même l'annuler et la détruire. Qu'Allah nous en préserve. Ainsi, on nous dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ceci car ils ont détesté ce qu'Allah a révélé. Il a donc rendu caduques leurs œuvres. Il faut faire attention à ce point-là. Beaucoup de personnes n'ayant pas une foi enracinée, n'ayant pas été éduquées sur l'islam, choisissent leur religiosité et leurs actions à la carte. J'aime ceci, j'aime cela, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, j'agrée ceci, je n'agrée pas cela. Comme si eux étaient des législateurs avec Allah, le Seigneur des mondes. Non. Dès lors que c'est dans le Coran, dès lors que c'est dans la Sunna, dès lors que c'est légiféré, recommandé ou obligatoire, na'am, tu es le serviteur d'Allah. Tu es le serviteur d'Allah, tu dois te soumettre. Agrée ce qu'Allah Azza wa Jal a agréé pour toi. Inna dina indallah l'islam. Et ce qu'Allah a agréé pour toi, c'est l'islam. Certes, la religion chez Allah, c'est l'islam. وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا Et j'agrée comme religion pour vous l'islam. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Et quiconque recherche une autre religion en dehors de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. On fait attention à ce point-là. Il faut s'éduquer. Ce sur quoi Allah Azza wa Jal nous a éduqués. Barakallahu fikum. Pour finir ce sujet, Al-Mustahabbat fi siyami ou fi shahr Ramadan. Les choses recommandées dans le mois de Ramadan et son jeûne. Premièrement, As-Sahur. Le repas du matin. Es-sahur, c'est le repas qui se prend au moment du sahar. El-wado, tout comme el-wado, c'est l'eau qui est utilisée pour faire el-wado. Es-suhur, c'est l'action de prendre le repas du matin. Es-sahur, c'est le repas qui est consommé. El-wado, c'est l'acte de faire les ablutions. El-wado, c'est l'eau qui est utilisée pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas d'avant le fajr, car dans ce dernier, il y a une bénédiction. Il a également dit Ni'ma sahuri al-mu'min at-tamr. Quel bon repas béni pour le croyant. Les dates. Yani le repas d'avant le fajr pour entamer un jour de jeûne. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a qualifié de béni et il a encouragé à consommer des dattes. Il a encouragé à consommer des dattes. Et la bénédiction dans le sahur, elle est large et vaste. Il a même dit la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre, c'est ce repas-là du sahur. C'est ce repas-là du sahur. La bénédiction, elle est multiple. Tu vas rompre la lassitude de l'enchaînement des heures de jeûne. Ça va revivifier ton corps et te donner de la vigueur pour l'adoration d'Allah. Deuxièmement, ça va te donner de la force pour faire l'adoration. Troisièmement, ça va t'enlever de la difficulté de supporter le jeûne. Quatrièmement, ça va te permettre d'assouvir tes besoins et tes envies, tes passions licites, que ce soit dans la consommation de la nourriture ou de l'épouse. Cinquièmement, tu vas être réveillé dans le dernier tiers de la nuit, le temps le plus béni dans lequel Allah Azza wa Jalla descend ciel de ce bas monde et demande, qui me demande pour que je lui donne, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande pardon afin que je lui pardonne, tu pourras donc faire dua. Aussi, c'est le temps de l'istighfar, la demande de pardon, abil ashari hum yastaghfirun, les gens pieux prier une partie de la nuit, puis demander le pardon à Allah Azza wa Jalla dans ce moment-là. Si tu es pieux, tu continueras sur tes habitudes, et si on l'est moins, alors on ressemblera aux gens pieux à ce moment-là, espérant faire partie après Ramadan, partie 2 après le mois de Ramadan. Car même si on n'en fait pas partie, on les aime. Na'am, et on espère qu'Allah Azza wa Jalla nous ressuscite avec eux ou obtenir de leur intercession. Comme le disait l'imam al-Shafi'i dans son poème. Donc, il y a aussi une baraka dans le fait de prier le Fajr à l'heure. Il y a aussi une baraka dans le fait d'avoir la capacité d'aller prier à la mosquée parce qu'on est levé avant. Et ainsi de suite. Une baraka parce qu'on peut faire être dua, une baraka parce qu'on va faire les adhkar après salat, les invocations du matin, la lecture du Coran, une baraka de beaucoup de points de vue. Nul ne les connaît tous si ce n'est Allah Azza wa Jal. Deuxième sunnah, c'est la consommation de dattes durant le repas du sahur, comme on l'a mentionné dans le hadith. Est-ce que on doit en consommer un nombre impair ou cela n'est pas mentionné? Ce qui est sûr, c'est que de consommer des dattes fait partie de la sunnah du Prophète sallam au sahur et au iftar. Concernant le nombre, il y a des textes généraux qui disent « Inna Allah witrun yuhibbul witr ». Allah est witr, il aime ce qui est impair. À partir de là, certains savants comme Cheikh Salah Fawzan Hafidhahullah Ta'ala disent qu'il est bon de viser le witr dans toute chose, même lorsqu'il n'y a pas un texte spécifique. D'autres savants comme Ibn Uthaymin Rahimahullah Ta'ala, eux disent « Non, il faut un texte spécifique, donc tu manges des dattes sans viser un nombre particulier. » Quoi qu'il en soit, la question est large. Yani la possibilité ici est vaste et large. Et ce qui importe, c'est d'atteindre la sunna en consommant des dattes, que ce soit un nombre impair ou non. Une troisième sunna, ta'khir al-sahur, le fait de retarder ce repas-là, de ne pas le prendre une heure avant le fajr, deux heures avant le fajr, comme le font certains, ou manger énormément avant de dormir en pensant que avec cela, on se passe de prendre le sahur. Non. Dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La yazalu nasu bi khayr » Les gens ne cesseront d'être dans le bien. « Ma'ajjalu al-fitr wa aftaru sahur wa akharu sahur » Tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne et retarderont la prise du repas d'avant le fajr. Aussi, on a demandé à Anas radiallahu anhu combien de temps y avait-il entre le repas du sahur du Prophète et l'adhan. Il a dit qadra khamsina aya, le temps de lire 50 versets. Le temps de lire 50 versets, quelques pages de Coran. Donc, ce qui est à comprendre ici, c'est que le Prophète prenait le repas d'avant le fajr tardivement, pas trop en avance. Mais il laissait quand même un laps de temps après ce repas-là. Pas comme on fait nous juste, on s'arrête à au Eden. Ça, c'est permis. Il n'y a pas de blâme. Mais mieux que cela, la sunna du Prophète, c'est de s'arrêter un peu seulement avant. Un peu seulement avant. Une autre sunna, s'empresser de rompre le jeûne une fois, à condition d'être sûr que c'est le maghrib. Donc dès lors que le disque solaire s'est couché, on s'empresse de couper le jeûne. Ça, c'est une sunna. Ça, c'est une sunna. Et certaines personnes blâment ceux qui font cela. Ah, tu as trop faim. Ah, mais tu tiens pas. Ou ils font des blagues. Ou non, subhanallah, hada din. Ça, c'est la religion d'Allah. Ne fais pas de plaisanterie sur cela. Ça, c'est la religion d'Allah. Ça, c'est la sunna de la meilleure créature d'Allah. Ça, c'est la sunna de notre imam. Lorsqu'on s'empresse de couper le jeûne, c'est juste pour copier notre bien-aimé, notre prophète et messager, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsqu'on n'a pas faim, on s'empresse de couper le jeûne parce que laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Il s'empressait, on s'empresse. Et s'il nous avait dit de retarder, on aurait retardé. Barakallahu fikum. Donc ça, c'est très important. Pourquoi on fait comme ça? Parce que le prophète alayhi salat wa salam l'a fait. Parce qu'il a encouragé. Parce que le bien réside dans cela. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala cite une sagesse dans le fait de rompre avec des dates. Il dit que c'est un aliment qui est très bon et dont les nutriments pénètrent plus rapidement dans le corps. Ainsi, il se renforce pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et le mieux pour rompre le jeûne, comme c'est venu dans le hadith, Rutabat. Rasulullah rompait son jeûne avec des dates fraîches. S'il n'en trouvait pas, avec des dates, des tamarat, des dates sèches. S'il n'en trouvait pas, alors hasawat min ma. Quelques gorgées d'eau. Et tout cela nous montre quoi? La miséricorde de cette religion. C'est que tu jeûnes pas pour te torturer le corps. Non, mais pour t'éduquer, pour te renforcer, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai oublié une grande baraka dans le fait de prendre le sahur. C'est parce que tu mets en pratique la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et ça, c'est la plus grande baraka. C'est de vivre comme vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que doit faire celui qui est en train de boire ou qui a une bouchée dans sa bouche et il entend l'adhan et le fajr entre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Da sami'a ahadukum al-nida'a wal-ina'u fi yadihi » Si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière et que le récipient est dans sa main, c'est-à-dire il est en train de consommer, فَلَا يَضَعُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَ مِنْ qu'il ne le pose pas tant qu'il n'a pas fini d'assouvir son besoin. Donc si tu es en train de boire, ou tu es en train de boire, que tu aies le verre à la bouche ou non, et tu entends l'adhan, eh bien si tu veux, tu finis. Si tu as envie, finis, et ensuite pose ce verre-là, mais ne te resserre pas à nouveau. Et si tu as une bouchée dans la bouche, finis-la, mais n'en reprends pas à nouveau. Barakallahu fikum. Je répète, celui qui a commencé la consommation, qu'il finisse. Et celui qui n'a pas pris la chose, qu'il ne la prenne pas. Il finit ce qu'il y a dans sa main. Pour ce qui est de la boisson, nul doute sur cela. Pour ce qui est de la nourriture, ce qu'il y a dans sa bouche, aucun doute. Puis ce qu'il y a dans sa main, certains savants vont dire que c'est comme la boisson, donc tu peux compléter. Et d'autres vont dire que c'est différent de la boisson. Le texte est venu sur la boisson. Wallahu a'lam. Parmi les sunan, al-ikthar min taftir as-sa'imin, le fait de nourrir des jeûneurs. Soit en leur donnant de quoi rompre le jeûne, soit en leur donnant de quoi se renforcer pour la nuit ou la journée de Ramadan. Car le prophète alayhi salat wa salam nous dit, celui qui fait rompre le jeûne à un jeûneur a sa récompense. A sa récompense. Parmi les sunan de la journée de Ramadan, c'est que si une personne t'importune ou tente de te nuire, au lieu de lui répondre, tu lui dis inni sa'im, je jeûne. Ainsi tu donnes une excuse à ton âme qui te pousse à la vengeance, qui te pousse à la virilité, qui te pousse à sa défense, tu pousses ton âme à supporter, parce que c'est le mois de l'endurance. C'est comme si tu disais à ton âme, « Oh mon âme, on est parfaitement capable de lui dire ce qu'il vient de nous dire. On est parfaitement capable de l'allonger au sol avec un coup. Mais notre jeûne est précieux. On ne peut pas l'entacher pour cette personne-là, elle ne le mérite pas. On le préserve pour Allah Azza wa Jal. Vous comprenez le sens? Ainsi, tu préserves ton honneur et tu donnes satiété à ton âme dans sa considération. Barakallahu fikoum. Parmi les sunan, qiyamul layl fi Ramadan. Qiyamul layali shahri Ramadan. Le fait de prier les nuits de Ramadan. Pas une nuit tu pries pas, non. La constance, toutes les nuits tu essayes de prier ce que tu peux. Le prophète alayhi salat wa salam te dit, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et lorsque tu es malade, lorsque tu es extrêmement fatigué, fais quand même l'effort de faire ce que tu peux. Puis tu pries le witr. Ne serait-ce que en récitant qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, inna a'tainakal kawthar wal 'asr. Ne néglige pas un verset du Coran. Cependant, la sunna des musulmans est de prier derrière l'imam à la mosquée. Et là, tu as une autre récompense dans cette récompense. C'est que le prophète alayhi salat wa salam a dit man qama ma'a al-imam hatta yansarif, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, kutiba lahu qiyamu layla. On lui inscrit toute la nuit passée en prière. Allahu Akbar. Combien de temps dure la salat al-tarawih en général? 1 heure. 45 minutes, 1h10. Hein? Eh ben, on t'inscrit comme si tu avais prié les 8 heures de la nuit, les 6 heures de la nuit, les 5 heures de la nuit. Tu pries avec l'imam 1 heure, subhanallah. Allah Azza wa Jal te donne la récompense d'avoir prié toute la nuit. S'il y a un imam, c'est un imam. S'il y a deux imams, c'est deux imams. Jusqu'à la fin de la prière dans cette mosquée. Puis tu pars, on t'inscrit la prière passée, la prière passée toute la nuit passée en prière. Donc ça, c'est une récompense qu'on ne peut se permettre de négliger. Barakallahu fikoum. Parmi les sunan, le fait de lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la visite de Jibril alayhi salam chaque nuit de Ramadan et lui enseignait le Coran. Donc c'est une sunna. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Depuis l'époque des compagnons, puis les prédécesseurs jusqu'à notre époque, les gens se motivent pour lire le Coran. Barakallahu fikum. Ad-du'a, c'est recommandé de faire ad-du'a wa idha salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il me demande. Ce verset-là est dans les versets de Ramadan, alors qu'il parle de ad-du'a. Et le prophète sallam nous dit que le sa'im a une da'wa mustajaba. Et dans d'autres hadiths, lorsqu'ils auront le jeûne. Donc c'est recommandé de faire plus de bonnes actions, particulièrement la lecture du Coran, ad-du'a. Parmi les choses recommandées, as-sadaqa wal-jud, la générosité, as-sadaqa, nourrir des jeûneurs. Naam, le prophète sallam, comme c'est vu dans le hadith, était la personne la plus généreuse. Naam, et le moment où il était encore plus généreux, c'est lorsque Jibril lui venait lui réciter le Coran. Donc, le fait de nourrir des jeûneurs, le fait d'être généreux de manière générale. Parmi les choses recommandées, al-umra. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit umratun fi ramadan ta'dilu hijjah. Une umra accomplie dans le mois de ramadan équivaut à un pèlerinage. Dans l'autre version, taqdi hajjatan ou hajjatan ma'i. Cela équivaut à un pèlerinage ou un pèlerinage en ma compagnie. Allahu Akbar, en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui fait une umra, celui qui se met en état d'ihram, à partir du moment où le mois de Ramadan est rentré, ou avant que le mois de Ramadan sorte, il a cette récompense-là. Il a cette récompense-là. Certains même disent, s'il s'est mis en état d'ihram dans le mois de Ramadan, puis le mois de Ramadan sort et qu'il fait sa umra, ce qui compte, c'est l'état d'ihram. Alors, il aura quand même la récompense. Une grande sunna, le fait de multiplier les efforts dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mélangeait entre le sommeil et la prière et les adorations de nuit dans le mois de Ramadan. Mais lorsque les 10 dernières nuits entraient, il serrait le pagne. Il veillait la nuit à la recherche de Laylatul Qadr et il faisait l'i'tikaf. Il serrait le pagne, c'est-à-dire il s'éloignait de ses épouses. Et il réveillait ses épouses, c'est-à-dire il les motivait à prendre une part à l'adoration de nuit, particulièrement la prière et ad-du'a. Et Laylatul Qadr se recherche particulièrement avec deux actions. Premièrement, la prière de nuit et deuxièmement, ad-du'a. Premièrement, la prière de nuit et deuxièmement, ad-du'a. Une sunna à la recherche de Laylatul Qadr, bien sûr, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Enfin, al-i'tikaf, la retraite spirituelle dans la mosquée, dans les 10 dernières nuits à la recherche de Laylatul Qadr. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal m'a facilité de vous transmettre. On finira sur une dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa bien-aimée, son épouse Aisha radiallahu anha, quand lui a posé la question, vois-tu si j'atteins Laylatul Qadr, que me conseilles-tu de dire? Il lui a dit, Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Ou Allah, tu es absoluteur, tu aimes absoudre les fautes, absous donc mes péchés. Donc ça, c'est une grande dua qu'il faut dire particulière, qu'il faut dire de tout temps et particulièrement dans les 10 dernières nuits. Naam, dans les 10 dernières nuits, que ce soit en prière prosternée ou que ce soit en dehors de cela. بارك الله فيكم صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Demain on finira inshallah ta'ala le cours sur les règles du mois de Ramadan en mentionnant les annulatifs du jeûne, en mentionnant ce qui est madha, ce qui est permis, bien que certaines personnes peuvent penser que c'est interdit, et quelques recommandations, puis on passera à d'autres sujets, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahumma barik ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azab an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda, wa tuqa, wa al-afafa, wa al-ghina. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nasta'ith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا.
Allahumma aghfir lana dhunubana. Allahumma aghfir lana wa li walidina. Allahumma aghfir lana wa li walidina. Allahumma aghfir lana wa li walidina. Allahumma aghfir lana wa li walidina wa lil muslimin wa lil muslimat wa lil mu'minin wa lil mu'minat wa lil ahya'i minhum wa lil amwat. Allahumma aghfir lana wa rahamna wa afina warzuqna. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr wal mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ahdina wa saddidna. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa, fa'afu anna. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik, fa'innahu la yamlikuhuma illa ant. Allahumma akfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين واقض الديون عن المدينين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.